Je suis en compagnie de Guy Hannequin, co-président du Salon de la caricature, du dessin de presse et de l'humour. Bonjour Guy.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment marche ce salon, qu'est-ce qui se passe et comment vous l'avez organisé ?
Alors, le salon, il est déjà ouvert depuis, pour cette édition, hein, c'est la 43e, hein, donc on n'est pas nouveau dans le domaine. Traditionnellement, il se déroule sur deux week-ends, le dernier week-end de septembre et le premier week-end d'octobre. Alors, pour ceux qui ne sont jamais venus au salon, les activités sont les suivantes. D'abord, c'est une grande rencontre entre le public et puis les dessinateurs qu'ils ont l'habitude de voir sur les journaux. C'est une occasion de les rencontrer, de discuter avec eux, de se faire croquer parce qu'il y a beaucoup de caricaturistes. C'est l'occasion de visiter toutes les expositions qu'on a mis en place. Cette année, on met l'accent sur Tinius avec une grosse exposition qui a été conçue par Chloé, sa veuve, et qui montre tous les aspects de Tinius. Le Tinius père de famille, le Tinius journaliste, le Tinius provocateur, en mettant en évidence que c'était un grand humaniste. À nous de faire en sorte, on donne l'occasion au public de cette rencontre avec tout l'univers de Tinius. Et cette exposition ne durera pas que pendant le salon, elle durera jusqu'au 14 août prochain. Justement, pendant l'année 2015, qui commémorera cet affreux attentat de Charlie Hebdo.
Alors, ça fait 43 ans que ce salon existe. Pour quelles raisons il a été créé ?
Alors, là, on va faire un petit peu d'histoire. Hein. Il est né du foyer des jeunes. Et ces ados, sous la conduite de Gérard Vandenbroek, qui était conseiller municipal à l'époque, qui avait la mission d'encadrer les jeunes et de trouver des activités. Il faisait déjà pas mal de choses à l'époque. Hein. Il faisait des soirées avec les écrivains, les conteurs, des soirées qui étaient très suivies par les gens de la commune. Et puis, ils ont eu l'idée de créer un événement. Alors, un événement dont on pourrait parler, pas seulement dans la commune, mais ailleurs, dans le département, voire au plan national. Voilà, ils avaient des ambitions. Donc, ils ont fait du brainstorming et puis ils ont cherché qu'est-ce qu'on pourrait faire. Alors, il y en a, ils ont dit de la BD. Ah, on pourrait faire un salon de la BD. Oui, mais la BD, ça existe déjà à Angoulême. Hein. Alors, ils ont réfléchi, ils ont dit le dessin d'humour, il n'y a pas de salon. Donc, ça, c'est une bonne idée. Donc, ils sont partis pour faire le salon du dessin d'humour. Donc, la première année, il y avait peut-être une centaine de dessins d'exposés. Ils ont contacté les dessinateurs. Ils leur ont écrit, ils ont eu des réponses. Ils ont rassemblé péniblement, une centaine de dessins. Mais il y a quand même un dessinateur qui est venu. Pour faire court, quel est le cheminement de ce salon ? Donc, au départ, l'idée des jeunes, qui sont pour certains encore là, c'est le cas de Corinne. Moi, j'étais là parce que c'est moi qui ai fait les premières affiches. Et puis, bien sûr, l'association a énormément grossi. Ce n'est plus le foyer des jeunes qui pilote l'association, mais c'est une association qui comporte 140 adhérents, avec beaucoup de bénévoles qui participent aux installations, aux hébergements, ou à la restauration, etc., etc.
Vous avez dit que vous faisiez les affiches avant. Est-ce que vous êtes dessinateur ?
Ben, je dessinais, j'étais amateur dessinateur, hein, parce que je n'étais pas dans le dessin. Moi, j'étais dessinateur industriel dans une société, mais dans le bureau, je croquais déjà. J'avais l'habitude de faire les caricatures de tous mes collègues. Donc là, moi, j'étais amateur à l'époque. Et quand les jeunes ont cherché un dessinateur pour faire l'affiche, eh bien, c'est tombé sur moi.
Et vous dessinez toujours ?
Oui, de moins en moins, mais oui, il m'arrive de dessiner pour mes petits-enfants. Je fais des cartes de vœux, je fais des choses comme ça.
Comment vous organisez un tel événement ?
Alors, l'organisation, au bout de 43 ans, l'organisation, elle est, je ne veux pas dire toujours, c'est pas de la routine, hein, mais on connaît les dates clés dans l'organisation annuelle. L'événement, il s'organise sur un an, hein, faut le savoir même des fois plus, hein, pour prendre les contacts. En ce moment, ce jour-là, on commence à établir le programme du prochain festival l'année prochaine. Donc on prend les contacts, on connaît notre capacité d'exposition, et puis voilà, ça se fait après journalement. Je dirais que c'est répétitif d'une année sur l'autre. Au bout de 43 ans, la méthodologie, on la connaît parfaitement.
Je m'appelle Jo Bonfim, je suis français et brésilien. Je suis arrivé en France à l'âge de 30 ans. J'ai fait beaucoup de caricatures. J'ai dessiné déjà, je faisais des dessins de presse au Brésil. Et j'ai dessiné même pendant la dictature militaire. Et j'ai vu maintenant depuis 35 ans en France. Je vis dans les Var. J'interviens dans les écoles, dans les festivals, même dans les hôpitaux, en tant qu'intervenant pour dessiner, pour faire des ateliers de dessin, aussi pour participer à des expositions. Ici, il y a 4 travaux qui sont en exposition à Saint-Just. À Saint-Just, je viens depuis 8 ans déjà maintenant. Et je suis très heureux d'être là parce qu'on rencontre des professionnels de tout le monde. Donc c'est une atmosphère très bon enfant parce que je pense que la grosse particularité de nous tous, c'est qu'en étant enfant, à partir du moment qu'on a compris que les crayons pouvaient nous faire, c'était un jouet, mais ça permettrait au-delà du jouet de communiquer et même de voyager comme c'est mon cas. Donc on est heureux de se retrouver avec la même passion, avec ces mêmes tics de dessiner tout le temps. On est très heureux d'être là, je suis très heureux d'être là.
Comment le dessin est arrivé dans votre vie et à quel âge ?
Tout petit, comme je vous ai dit, à l'école, quand j'ai eu mes premiers crayons, j'ai compris tout de suite que je pouvais tirer davantage de ces petits talents, si l'on peut dire comme ça, cette facilité pour les dessins. Parce que je viens d'une famille très pauvre, comme j'étais doué pour les dessins, la maîtresse, les autres partaient en récréation, et la maîtresse mettait une table à côté du tableau noir, je montais dessus, et les petits illustrations qu'elle avait dans les livres d'école, elle me faisait grandir, faire un dessin plus grand sous le tableau. Et ensuite, elle donnait des cours pour les autres élèves avec mes dessins grandis sur le tableau. À l'époque des Pâques ou des fêtes de mère, tous les élèves étaient obligés d'amener une affiche dessinée et colorée. Et comme il y avait des gens moins doués que moi, souvent, il y avait des enfants des familles un peu plus riches que la mienne. On m'invitait pour les goûter, pour les gâteaux, les thés, les chocolats chez eux. Et à la fin de la journée, il y avait toujours un grand morceau de papier où je devais faire l'affiche. Et à la fin, c'est cet enfant de la famille qui signait en bas. Et je me retrouvais dans la salle de classe avec une dizaine de dessins que j'avais faits, mais signés par d'autres. Mais j'avais bien quand même eu mon compte parce que j'ai mangé du bon gâteau. Oui, j'ai profité de choses que je n'avais pas à la maison.
Et comment vous vous êtes lancé dans la caricature en particulier ?
C'est une très bonne question, parce que je viens d'une formation très classique. J'ai fait une école de beaux-arts à Rio, et j'ai passé une année de spécialisation à Berlin, en Allemagne, où j'étais comme artiste invité. Donc j'étais plutôt destiné au dessin du naturaliste, ça veut dire des portraits et des modèles vivants. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. À un moment donné, j'ai rencontré un caricaturiste qui, lui, il souriait tout le temps. Il y avait une famille heureuse avec des filles. Et j'ai trouvé génial parce que quand j'ai dessiné un modèle vivant, tout le monde trouvait que le dessin était beau, mais il n'y avait pas les côtés humoristiques, les côtés la sourire, qui n'a pas de prix de l'autre côté. Alors, et quand mon collègue dessinait, il avait déjà 76 ans, attention, quelqu'un, les gens partaient avec la banane, les sourires, et en plus, ils l'affichaient chez eux. La bonne humeur, elle se prolongeait dans leur maison. Un beau dessin, un beau portrait, un beau nu, c'est beau, mais les corps, ils changent aussi. Il ne va pas amener la même émotion qu'un sourire, que la bonne humeur d'une caricature. Et donc, j'ai bifurqué. À partir de ces temps, je commençais à prendre de plus en plus goût à la caricature. Et là, maintenant, je préfère faire des caricatures que des portraits. Seulement quand la personne, soi-disant, elle n'est pas trop belle, j'essaie de ne pas surcharger, je ne peux pas m'empêcher, je ne veux pas que les dessins se transforment en une sorte de torture presque, parce que si vous ne vous trouvez pas belle, chaque fois que vous allez regarder ces dessins, vous allez trouver vos rides qui sont naissantes, ça vous rappelle peut-être pas forcément les belles choses. Je préfère que la personne affiche un dessin, qu'à chaque fois qu'on voit, on va sourire, on va être content, on va être heureux de partager cette image-là. Et même si l'image, même si le corps est vieilli, on va trouver l'expression des yeux et de la bouche, on va reconnaître la personne à n'importe quel âge. Ce n'est pas forcément vrai avec un dessin de nu ou du portrait. Les gens parfois changent beaucoup. Donc je suis très heureux en faisant ça. Je vais beaucoup dans les écoles et c'est un public que j'aime particulièrement de partager ma passion.
Et qu'est-ce que vous essayez de transmettre à travers vos dessins du coup ?
Déjà, quand on fait des ateliers comme ça, c'est la première chose que je trouve que c'est important, c'est que pour dire que n'importe qui peut dessiner. Beaucoup de personnes, parfois, ils ont eu une mauvaise expérience à l'école et qui pensent « je ne sais pas dessiner, je ne fais pas dessiner ». Mais ce que je trouve intéressant, c'est essayer de valoriser, de faire ressortir cette singularité pour dire que tout le monde sait dessiner. Déjà, si la plupart des gens s'est fait une signature, la signature, c'est rien qu'un dessin aussi, et c'est personnel. Donc c'est ça que je veux faire ressortir les gens pour dire tu sais faire une signature, donc tu sais bien dessiner. Et à partir de là, essayer de ne pas trop brider les styles de la personne. Donc je dis là, c'est bien, c'est très bien ce que tu fais. N'est pas dicté mon style à cette personne. Donc elle reste toujours un champ de liberté, une fenêtre qu'elle peut ouvrir et partir dans ce sens. Une fois, je suis dans un hôpital qui traitait des gens avec des problèmes psychiques. Et je suis allé faire un atelier. Il y avait un monsieur qui était très, très, très nerveux, qui fumait tout le temps. Il sortait chaque 5 minutes pour fumer à l'extérieur et revenait très agité. Sa maman était là. Elle est venue me voir, elle dit, mais monsieur, vous faites des ateliers rien que pour les internes. Je dis, non madame, pourquoi? Parce que quand mon fils était petit, quand j'étais petit, j'aime dessiner, j'ai passé des heures à dessiner avec lui. J'ai dit, vous serez la bienvenue de venir à l'atelier. Alors, ils se sont assis un côté de l'autre. Ce monsieur, il a pris beaucoup de temps avant de sortir pour fumer, chose qu'il faisait à chaque 3-5 minutes. Il a resté le temps, il a partagé son temps avec la maman. Et la maman est venue me remercier en disant, monsieur, ça faisait au moins presque 30 ans que je n'avais pas le même type d'émotion de partage avec mon fils. Il était là, il dessinait avec moi, il demandait des échanges, des opinions par rapport à ses travaux. Il a dit, c'est comme si j'avais fait un voyage autant qu'elle était petite qu'elle dessinait à côté de moi. Donc elle était toute émue, moi aussi. Donc on a passé un moment, c'était un très beau atelier. Les dessins permettent cette magie-là, c'est un moyen de communication. Je pense qu'elle est plus riche, plus libérateur que la parole. Quand vous voyez un dessin de presse, parfois on arrive à exprimer des idées et d'opinions qui même un long discours n'arriverait jamais. Et c'est un canal pour lequel on s'exprime plus facilement parce que les crayons et les dessins, ça nous accompagne depuis l'enfance. Je suis content de faire ça, de pouvoir transmettre ma passion, parce qu'une, c'est un moyen de communication, une, si le dessin il transmet des bonnes énergies, une bonne vibration, une bonne humeur, le papier il va vieillir, mais l'arc est dedans, l'intention, l'émotion elle va être toujours la même. Donc si quelqu'un, si un jeune a ri de sa caricature à un moment donné, peut-être ses petits-enfants ils vont rire de la même caricature. Quand je serai là, l'effet d'avoir dessiné, ça va continuer à faire du bien aux gens. Apporter de la bonne humeur, donc c'est pour ça. Autant que le papier existera, ces dessins qui me prennent les papiers, il sera là. Sans une beauté, une humeur, un truc rigolo, quelque chose, peu importe. Mais l'émotion, elle est avec les dessins. Et ça, ça ne vieillit pas, ça ne se perd pas avec le temps. Avec le temps, tout s'en va, mais pas cela, pas ça. C'est le mot de la fin.
Très beau mot de la fin. Je suis avec le dessinateur Bertrand Dollet. Bonjour Bertrand.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre art et de votre parcours ?
C'est un parcours déjà assez long puisque ça fait presque 40 ans que je viens ici à Saint-Just-le-Martel. Donc j'ai commencé comme dessinateur dans les années 80, 75-80, pour la presse nationale, donc pour Le Monde, Le Canard Enchaîné. J'ai travaillé pendant 6 mois à la télé, à TF1, avec Cabu et Kerr Leroux. Et on a été virés parce que pour des dessins qui n'ont pas plu à la direction de l'époque. Et après, je suis passé à l'évolution du dessin par l'informatique. Et donc, j'ai eu pas mal de changements de vie professionnelle, étant donné que la presse ne nourrissait plus son homme. Et donc, comme j'avais fait des études juridiques avant, j'ai eu une activité juridique jusqu'à ma retraite. Et aujourd'hui, donc, j'ai le plaisir de reprendre à la fois contact avec Saint-Just et les congrès de dessinateurs, et puis de proposer des expositions comme celle qui est présentée cette année.
Et comment la passion du dessin, elle est arrivée dans votre vie ?
C'est une passion de dessin familiale. On est 4 frères et mon père dessinait. Il nous a un peu appris à dessiner. Et parmi mes frères, j'en ai 2 qui ont fait du dessin, dont un qui a fait les arts déco. Et moi, je dessinais avec facilité, mais je n'ai pas, à part quelques cours de la ville de Paris, pour des nus ou pour des choses comme ça, parce que j'avais envie de me remettre au dessin. Mais autrement, non, j'ai pas de formation artistique en dehors de la culture familiale.
Vous avez du coup une passion pour les polars, j'imagine, vu l'exposition donc Polar en série.
Oui, tout à fait. Ça faisait des années que, bon, d'une part, je suis très amateur de romans policiers d'abord, depuis des années, et puis de séries policières. Et j'ai eu l'idée de proposer à l'équipe de Saint-Just-le-Martel une expo sur ces auteurs, ces acteurs, ces séries qui sont diffusées partout sur toutes les chaînes. Et donc j'ai essayé de reprendre les maîtres du genre d'abord avec Arsène Lupin, Maigret, et puis les séries mythiques Columbo, les Flics à Miami. Et puis j'ai exploré petit à petit toutes les séries anglaises qui sont extrêmement riches et qui m'ont épaté par la qualité des décors quand ils font des reconstitutions de crimes ou de séries qui se passent dans les années 50. C'est vraiment une qualité extraordinaire. Bon, en ce qui concerne les personnages, ils sont toujours très, très bien choisis, le casting est remarquable et donc j'avais l'embarras du choix.
Devant nous, on a surtout True Detective avec Colin Farrell, Rachel McAdams, Matthew McConaughey, Woody Harrelson. Ils sont incroyables, vraiment. J'adore Colin Farrell, c'est un de mes acteurs préférés et son portrait est très bien réalisé.
Merci. Et puis, il y a aussi toute la série inspirée de l'auteur Michael Connelly avec les séries de Bosch. Les premières séries qui ont été faites, c'était à partir des romans de James Hadley Chase, avec des acteurs de second plan, donc je ne les ai pas représentés. Par contre, là, en France, il y a eu une adaptation d'un célèbre roman de James Hadley Chase, qui était La chair de l'orchidée, et qui était un des premiers rôles de Charlotte Rampling. C'est un film qui a été réalisé par Patrice Chéreau. Et puis, bon, dans les séries anglaises, les mythiques, il y avait l'inspecteur Clouseau aussi, dans lesquels il y avait Peter Sellers qui a joué... C'était une série, enfin, des films qui ont été inspirés par le grand réalisateur Blake Edwards.
Donc ça fait 40 ans que vous venez dans ce salon. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez?
Ben alors, chaque année est différente. Chaque année, il y a des thèmes différents, puis l'actualité aussi. Et puis, depuis 40 ans, c'est vrai qu'il y a des grands, si je pense à Cabu, si je pense à Tinius, à Wolinski, ce sont des gens que j'ai connus, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Et puis des grands humoristes. Et aujourd'hui, on a la tristesse de perdre Michel Blanc, par exemple. Donc c'est à la fois le souci d'être décalé par rapport à l'actualité, en montrant ce qu'elle a de risible, de dérisoire, et en même temps de tragique, et puis de révoltant. Et puis... La vie des gens qui font que des amis de longue date disparaissent les uns après les autres. Mais c'est la vie. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a des très talentueux dessinateurs. Et puis ici, on a la chance de voir des dessinateurs du monde entier. Et là, par exemple, j'ai découvert un dessinateur brésilien qui s'appelle Fernandez, qui est extraordinaire. Il y a des dessinateurs américains, SAC, des gens qui font partie d'une équipe... De Kagel, un dessinateur américain qui est fidèle à Saint-Just-le-Martel. Donc on y vient aussi pour faire son plein d'idées, pour regarder les styles, pour retrouver des amis et puis rencontrer le public, parce que ici les gens sont bien éduqués au dessin. Et ce matin, j'étais encore avec une classe d'un ESAT qui ont tous la tentation de dessiner et la compréhension du dessin. Donc on est en milieu très chaleureux et très convivial.
Qu'est-ce que vous essayez de transmettre au travers de vos dessins?
Alors c'est le décalage, en fait. Il faut toujours d'abord prendre les gens comme ils sont. Les physiques sont ce qu'ils sont, les gens sont ce qu'ils sont, on ne peut pas essayer de les changer. Quand vous rencontrez une personne pour la première fois, il faut s'adapter aux gens. Donc c'est la première des choses. Et quand vous dessinez quelqu'un, comme là, on dessine des gens qu'on n'a pas connus, ou des nouveautés, des nouvelles têtes, il faut s'adapter. Et puis, il faut essayer de voir ce qu'il y a d'original, ce qu'il y a de particulier, ce qu'il y a de... Et puis, j'essaye chaque fois de varier les techniques. Je ne pourrais pas dessiner toujours avec les mêmes outils. J'utilise le crayon monochrome, les pastels, le marqueur à l'encre, j'utilise aussi l'informatique, j'ai une tablette graphique, donc je ne suis pas campé dans un... J'aime bien la diversité.
Facile, hein? Facile, hein?